drogue, ce qu'on avait appelé le programme LSD de Valérie Pécresse. Donc, il y a un article du Monde, là, du 23 décembre, intitulé « Les tests salivaires de dépistage de cannabis au lycée critiqués de toutes parts ». Voilà. Alors, il n'y a pas que Valérie Pécresse qui travaille là-dessus. On apprend dans cet article que Frédéric Pechnard, qui est vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, a parlé de tout ça sur France Info. Il souhaite une mise en place dès que possible. Donc un dispositif qui se ferait, je cite, dans le respect absolu des élèves et de leurs familles. Voilà. En fait, ce qu'il voudrait faire, c'est proposer aux 470 lycées franciliens de faire passer des tests aux lycéens, en fait, de la région. Ce qui est quand même pas rien. Pourquoi ? Ben parce que d'après eux, l'usage du cannabis est un phénomène massif qui se développe et qui résiste aux stratégies classiques de prévention. Voilà ce que dit Annie Genevard, chargée à l'éducation au sein du Parti des Républicains. Donc il faudrait déjà qu'il y ait une vraie politique de prévention mise en place, ce qui n'est pas le cas, mais bon, d'après cette personne, c'était le cas. Alors bon, voilà, tout ça, en fait, ça pose quand même un certain nombre de petits problèmes. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est pas si simple à mettre en place. En l'occurrence, il faudrait, par exemple, que les élèves qui sont dépistés positifs et leurs parents soient avertis. Dans la proposition de Pécresse, le proviseur n'aurait qu'un accès à des résultats statistiques globaux et anonymisés. C'est un peu déjà ce que proposait Ciotti. Lui, il proposait un dépistage d'au moins une fois par an dans tous les lycées, de tous les lycéens. Voilà. Tout ça, en fait, il semblerait que dans les régions, on puisse le faire sans passer par la loi. Et ben là, les avis sont un peu partagés. Au cabinet de Vallaud-Belkacem, on dit que rien dans la loi ne permet ce type de dépistage, en dehors d'une procédure judiciaire, justement. Ça pose donc des problèmes juridiques. En droit, c'est aux officiers de police de les faire passer, ces tests salivaires, sans compter qu'ils touchent à la liberté individuelle, à l'intégrité physique des élèves, d'autant plus si ceux-ci sont mineurs, et il faudrait bien sûr l'avocat des parents. Hein, ça, c'est une avocate qui explique ça. Alors à la MILDECA, le Monde est allé voir la MILDECA, voir ce que la MILDECA propose. Hein. La MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Ben là, la MILDECA, ils sont plutôt pas très... pour eux, ça pose pas trop de problèmes, en fait. À partir du moment où les tests répondent à un certain nombre de conditions, comme l'anonymat, la décision du chef d'établissement, par exemple. Après, voilà, ils disent quand même qu'il y a quand même peu de chances qu'un chef d'établissement y ait recours, car cela ne s'inscrit en aucun cas dans les orientations générales de lutte contre les conduites addictives. Voilà, ça ne fait pas partie du programme du plan national de lutte contre les drogues. Il n'est pas prévu dans ce programme d'équiper tous les lycées de la région Île-de-France de tests salivaires, pas plus que les autres lycées en France. Alors bon, du côté des Républicains, on assure toujours, hein, c'est toujours pareil, hein, que ce dispositif, s'il est convaincant, pourrait être repris par d'autres régions, tout simplement. Alors, il y a quand même des réactions de la part de la communauté éducative, des réactions qui sont assez logiques, hein, forcément. Donc il y a par exemple Christian Chevalier du syndicat d'enseignants SE-UNSA, qui dit cette chose très juste, hein, on part de l'idée que la jeunesse est coupable par avance et que si un lycéen refuse de se soumettre aux tests, il sera d'office considéré comme positif. Contrôler la jeunesse, on est bien là dans les vieilles valeurs, les vieilles rengaines de la droite. Ben ouais, comme d'habitude. Il n'y a pas que là-dessus qu'on critique, il y a aussi des critiques au niveau de la méthode et de l'efficacité d'une telle mesure. Comme par exemple ce que disent les infirmières scolaires qui disent voilà, se concentrer sur le dépistage, c'est se situer en bout de chaîne, c'est vouloir prendre l'élève sur le fait. Cette infirmière revendique plutôt une démarche de prévention. Elle dit que fait-on du résultat ? C'est la question cruciale. Le kit salivaire permet de détecter une prise récente de cannabis jusqu'à 20 heures sans faire la différence entre le consommateur occasionnel ou régulier. En effet, Jean-Pierre Coutron, qui est président de la Fédération Addiction, lui se dit aussi très sceptique et inquiet qu'on puisse faire ce genre de test, comme si on repartait de zéro sur ce sujet, rappelant, alors ouais, il y a quand même raison de le dire, il faut vraiment même le souligner, il dit il y a quand même un effort qui est fait depuis 2 ou 3 ans pour consolider les consultations jeunes consommateurs et développer l'intervention précoce pour aller à la rencontre des jeunes, ce qui est quand même beaucoup plus positif et constructif d'un point de vue pédagogique plutôt que de faire du sécuritaire et choper les gens sur le fait, comme c'était critiqué juste avant justement. Il y a aussi d'autres objections plutôt d'un point de vue économique qui se posent. Ça coûte extrêmement cher hein, d'équiper tous ces lycées en tests salivaires. Il y a aussi un problème de respect du secret médical, y compris pour des mineurs. Voilà. Bon, au niveau de la nouvelle présidence de région, on ne s'encombre pas de toutes ces critiques. Et on assure que le plan ne se résume d'ailleurs pas simplement aux tests. On propose également la mise en place de référents addiction dans les lycées ou la sécurisation de leurs abords avec les forces de police. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire un peu, encore une fois, sur ce programme qu'on peut même qualifier d'électoraliste, voire de carrément populiste, développé par Pécresse et les siens. Ce qui est quand même fou, c'est que cette proposition se fait sans la consultation des institutions qui travaillent déjà sur la prévention et les addictions. Et il existe quand même un dispositif. Là, Coutron nous parlait de la consultation jeunes consommateurs. L'objectif justement de ces consultations, c'est de permettre à des professionnels et à des individus plutôt jeunes de se rencontrer en dehors justement de tout contrôle, de tout flicage et de toute menace de répression. Et on sait que la criminalisation des usagers, ça éloigne justement les usagers du soin. Alors si on les menace encore de vouloir les choper sur le fait de fumage de cannabis dans les écoles ou ailleurs ou avant ou après, je sais pas, on va pas faire améliorer la situation, on va pas lutter contre la stigmatisation. Voilà, donc c'est encore un truc absurde, complètement délié de la réalité du terrain. Voilà, absurde comme on a l'habitude de le faire sur le sujet des drogues. La plupart des politiciens, de droite comme de gauche, hein, c'est pas uniquement Pécresse, ils sont tous dans la surenchère avec ça. C'est bien malheureux. Voilà. Alors, il y a un syndicat étudiant qui réagit également à cette proposition de Pécresse. Le syndicat Union Nationale Lycéenne, l'Interfédération d'Île-de-France, qui réagit entre autres en disant que le nouvel exécutif régional n'obtiendra au final rien d'autre que la perpétuation des fantasmes et des clichés sur la jeunesse. En effet, pourquoi viser uniquement les lycéens alors qu'ils ne sont clairement pas les seuls consommateurs de drogue ? Il y a un mois, quand Pécresse avait fait sa première proposition en ce sens, le cirque avait réagi avec un communiqué de presse en disant que oui, pourquoi pas faire des dépistages de drogue au lycée ? Pourquoi pas, à partir du moment, si on en fait aussi au Sénat, à l'Assemblée nationale, au Parlement, dans les partis politiques. Voilà, il n'y a quand même pas de raison que ce soit toujours les jeunes qui soient pointés du doigt et qu'on veuille dépister. du cannabis et de la drogue, ils s'en consomment partout. On sait qu'il y a des politiciens, et ça a été repris dans certains articles. On sait qu'il y a des personnes politiques, y compris à l'Assemblée nationale, ou parmi les députés, on sait qu'il y en a qui sont amateurs de cannabis, qui en fument. Voilà, bon, eux, visiblement, ils sont toujours au-dessus des lois, ces gens. Au-dessus des lois, en général, et au-dessus de la loi sur les drogues aussi. Ce que disent aussi les jeunes de l'Union Nationale Lycéenne, c'est, ils disent aussi, voilà, nous pensons que favoriser la prévention aux mesures répressives, c'est s'assurer de la sécurité des consommateurs, d'un véritable suivi de l'addiction, et donc de la baisse de la consommation. L'interfédération se dit prête à travailler avec la région pour mettre en place une vraie politique de lutte contre les drogues si elle n'est pas caricaturale et infantilisante. Voilà. Merci à ces étudiants de réagir de la sorte. Voilà. Allez, on va écouter encore un petit peu de musique et on revient après un petit fait divers dans l'Hérault avec une descente de gendarmerie dans... Là, c'était Gladiators. Je me suis pas trompé, mais on m'a soufflé, hein, j'avoue. Alors, on revient donc sur ce petit, ce qui n'est qu'un fait divers, mais j'ai choisi cet article pour qu'on comprenne bien quand même. Dans, enfin, je pense que déjà, on a tous plus ou moins bien compris dans quel genre de, j'allais dire, de démocratie. Mais est-ce qu'on est encore dans une démocratie? Je me pose de plus en plus la question. Et donc là, justement, avec cet état d'urgence, on se pose la question. L'état d'urgence, attention, hein, quand même, on a été attaqué par des terroristes super dangereux qui ont tué des dizaines et des dizaines de personnes. Ce qui est sûr, hein, vrai, personne ne le nie. Et donc, voilà, état d'urgence. Et donc, bah, l'état d'urgence, normalement, avec tous ces policiers, ces militaires, ces gendarmes déployés partout en France, pour sécuriser le territoire, le pays, et donc lutter contre les méchants terroristes qui viennent nous attaquer, nous mitrailler. Bah non, en fait, ça sert pas qu'à ça, l'état d'urgence, et c'était tellement prévisible. Bah en tout cas, ça sert à quoi faire? Ça sert à criminaliser également des petits consommateurs de cannabis, des jeunes qui prennent le train pour aller de la campagne à la ville, revenir de la ville vers la campagne. Voilà, par exemple, dans l'Hérault, un article du Midi Libre intitulé « Descente de gendarmerie dans le train entre Béziers et Bédarieux ». Donc, dans ce train, se sont rendus des gendarmes en civil en tenue, accompagnés de deux chiens spécialisés dans la recherche des stupes et des armes. Et des contrôles tous azimuts à la clé, nous dit-on. Ah, dormez tranquille, braves gens. Voilà, donc on nous donne tout dans le détail. Les militaires sont venus vers la sous-préfecture avec le train de 7h50. Ils sont repartis avec le même convoi en sens inverse. Voilà, et nous sommes intervenus pour sécuriser les convois. Peut-être pas prendre cet accent-là non plus. Comme l'exige la situation de l'état d'urgence instauré pour 3 mois depuis les attentats du 13 novembre, a confirmé le chef d'escadron Jean-Michel Douze, qui commande la compagnie de gendarmerie de Béziers. Chut. Cela rassure les gens de voir que nous sommes sur le terrain et nous pouvons ensuite aussi faire des contrôles auprès des jeunes qui empruntent ce train. Des jeunes. Alors déjà que les jeunes, on veut leur imposer le test salivaire dans les lycées de la région Île-de-France. Bon là, c'est vers Béziers, donc c'est une autre région. Mais bon, alors il faut leur faire un test salivaire quand ils sont au lycée. Quand ils prennent le train, il faut les contrôler pour voir s'ils n'ont pas du cannabis. Donc la mission de contrôle des flux est donc bien assurée. Et nous veillons à ce que les petits trafics de stupéfiants soient aussi dérangés. Ça rime en plus, c'est pas beau quand même. Et donc là, par exemple, un jeune scolarisé à Bédarieux a fait les frais du flair du chien stup. Pris la main dans le sac avec quelques grammes d'herbe de cannabis. Il a dû justifier la provenance de ce produit auprès des militaires et a été contraint de s'expliquer auprès de son établissement scolaire et de ses parents. Il manquerait plus que là, dans l'établissement scolaire, on lui fasse faire le test salivaire, justement. Il n'était pas loin. Il y en a un qui s'est sauvé, quand même. Il y en a un autre qui a eu le temps de dissimuler sa marchandise et de s'échapper avant que le chien ne fonde sur lui. Il a laissé entre deux sièges trois barrettes de résine de cannabis, mais il n'a pas été interpellé. Mais d'autres contrôles seront organisés. Voilà, c'est fou, hein, quand même. C'est fou. Alors donc là, pendant la pause musicale, on discutait justement des événements que propose et qu'organise le cirque tous les ans, à savoir la marche mondiale du cannabis tous les ans début mai, et le fameux appel du 18 juin tous les ans aussi, tous les 18 juin. Avec cet état d'urgence, honnêtement, on n'est pas hyper optimiste. On pense qu'ils peuvent aussi utiliser cet état d'urgence pour nous interdire nos manifestations. On n'est déjà pas bien nombreux. Là, si avec l'état d'urgence on nous les interdit, ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, mais c'est problématique. Suspense, comme tu dirais. Allez, on va maintenant délivrer de bonnes nouvelles aux auditeurs et auditrices de Cannabis Circus. Malheureusement, ces bonnes nouvelles, elles ne sont pas chez nous dans l'Hexagone, elles sont de l'autre côté de l'Atlantique. Là, c'est Newsweed qui nous parle un peu de cela, de cette bonne nouvelle, justement. C'est le gouvernement fédéral des États-Unis d'Amérique, mesdames et messieurs. Et oui, le gouvernement des États-Unis d'Amérique a officiellement mis fin, dans les faits, à la prohibition du cannabis médical, en tout cas, dans un texte de 1603 pages. Donc, au sein de ce texte, il y a tout un tas de dispositions qui sont prises par le gouvernement, mais dans ce document de 1603 pages, il y a justement le texte, l'écrit qui fait qu'aujourd'hui, officiellement, le gouvernement fédéral des États-Unis met un terme définitif à sa loi qui passait par-dessus les États, hein, sa loi qui disait justement que l'usage du cannabis médical ne pouvait pas être légal dans les États-Unis d'Amérique. Et que justement, avec ce texte, il était quand même possible au gouvernement fédéral de poursuivre les États qui avaient voté des lois permettant l'accès au cannabis thérapeutique, comme ça a été le cas il y a 20 ans en Californie, par exemple. Au début, ça avait quand même fait jaser. Mais là, du coup, avec ce document, c'est fini maintenant. L'administration américaine, le FBI en l'occurrence, ne pourra plus, par exemple, aller dans un dispositif délivrant du cannabis médical, où que ce soit aux États-Unis. C'est terminé. Voilà. C'est une super nouvelle. Donc, parce que quand même, quand Obama est arrivé au pouvoir, il avait dit, ouais, bon, en 2008, hein, au début, il avait dit, bon, le cannabis, on va voir, on va être un peu tolérant, on va quand même voir ce qui se passe. Puis quand même, par derrière, entre 2009 et 2012, en Californie, il y a quand même eu des descentes de police qui ont fait fermer des pharmacies de cannabis. Bon, voilà, maintenant, c'est fini. Voilà. Ça, c'est une super nouvelle. C'est un vrai progrès. Hein. Je veux vraiment l'acter. Alors, on va pas ouvrir une bouteille de champagne, hein, mais c'est une mesure quand même assez forte. Voilà. Alors, il faut savoir aussi dans ce petit article là que ce qu'on nous dit, c'est que les Républicains, qui sont plutôt le parti le plus opposé aux réformes sur le cannabis aux États-Unis, mais les Républicains maintenant sont en train de changer complètement. Il y a des anti-prohibitionnistes, y compris chez les Républicains. Alors, par exemple, c'est d'Anna Rohrabacher de Costa Mesa qui dit voilà, c'est une victoire pour beaucoup de personnes. Donc c'est un républicain. Il dit comme ça, l'approbation de la mesure représente pour la première fois depuis des années ce que le gouvernement fédéral, c'est-à-dire réduit sa prohibition oppressive sur le cannabis. La première fois depuis des années. Donc on nous rappelle dans cet article que 32 États américains et le district de Columbia ont légalisé le cannabis médical. Aujourd'hui, en 2015, 32 États américains sur 52. Ça fait rêver, quoi. Il y a 5 ans, on était à une vingtaine à peine. Là, on est à 32 maintenant. Un mouvement qui a commencé dans les années 90. Alors, même à l'époque, certains États, donc précurseurs, comme la Californie, justement, avaient déjà amorcé la dépénalisation. Même si le mouvement pour le cannabis médical a connu de nombreux succès récemment, la DEA, il faut quand même savoir, hein, classe toujours le cannabis parmi les drogues les plus dangereuses, sans aucune utilisation médicale acceptée. La DEA. Bon, mais ça aussi, c'est en train de changer, hein. Alors, pendant des années, le gouvernement a donc résisté très longtemps pour empêcher justement le gouvernement fédéral, pour pas que le gouvernement fédéral puisse utiliser des procédures pour bloquer l'autonomisation en fait des États sur le cannabis. Mais voilà, le Congrès a finalement utilisé tous ses outils à sa disposition pour que la loi ne prenne pas effet avant 11 ans à l'époque. Donc on est arrivé là au bout, quoi. Voilà. La guerre contre le cannabis médical est finie, dit Bill Piper, qui est un lobbyiste de la Drug Policy Alliance, et qui qualifie le changement d'historique. Le combat va maintenant se porter sur la légalisation totale du cannabis. Voilà. Donc là, ça va avancer, peut-être même plus vite que ce que je pensais. Je me disais quand même, il faut quand même peut-être attendre 5, peut-être 10 ans quand même aux États-Unis. Peut-être ce sera que 5 ans, quoi. On verra avec le nouveau président, on verra un peu quelle est sa sensibilité à ce sujet. Voilà, on va revenir en Europe. Avant de traverser l'Atlantique, on va parler un peu justement, on va rester un peu sur le cannabis thérapeutique, justement, mais là on va aller en République tchèque. Donc en République tchèque, il se passe aussi des choses. Alors là, le gouvernement tchèque n'a pas voté de loi légalisant le cannabis thérapeutique, quoique ils sont quand même plus en avance que nous au niveau législatif là-dessus. Mais par contre, il est possible en tout cas en République tchèque d'ouvrir un centre international dédié à la recherche sur le cannabis thérapeutique. Ça aussi, ça fait presque rêver, quoi. Donc, excusez-moi. On n'entendait pas au micro, voilà, ça va mieux. Donc oui, ça avance en République tchèque. C'est quand même assez incroyable aussi. Donc là, dans cet article, je ne vais pas tout vous lire, mais pas tout est intéressant. Je vous lirai vraiment les choses intéressantes, ce que va pouvoir faire ce centre. Dans l'article, on nous rappelle quand même que le Canada, l'Israël, les Pays-Bas, la République tchèque, la Croatie, le Mexique, l'Uruguay, la Roumanie, l'Allemagne, la Jamaïque, l'Australie, la Colombie et la Suisse ont tous des programmes médicaux nationaux encadrant le cannabis, tandis que des dizaines d'autres pays sont dans le processus de révision de la législation. Voilà, petit rappel quand même. Alors donc, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ce centre international de recherche sur le cannabis thérapeutique ? Alors, le travail principal de ce centre, c'est de fournir des instruments scientifiques aux institutions publiques et privées du monde entier. Le but étant de permettre l'investigation scientifique de la relation entre les composés bioactifs du cannabis et leurs effets sur l'organisme humain dans le traitement de syndromes spécifiques et à l'avenir des troubles systémiques de santé. Voilà ce que nous dit Pavel Kubu, qui est le directeur général du centre. Le centre se voue à une approche interdisciplinaire qui capture la base des connaissances actuelles dans les domaines de la recherche biomédicale, des sciences sociales, des sciences de la vie et de la recherche sur les politiques, avec le seul but d'identifier et de résoudre les obstacles au progrès. Les résultats doivent être partagés entre les universités, les instituts de recherche, les fondations privées, les gouvernements et les professionnels de santé, ainsi que les organisations de défense des patients, les fournisseurs de services de santé et les fabricants de produits. Voilà, donc international. Excusez-moi, inutile de préciser que ce centre international du cannabis et des cannabinoïdes est le premier centre international d'excellence sur l'avancement des traitements à base de cannabinoïdes et de ces cannabinoïdes dans le monde. On sait que Raphaël Meshulam en Israël, à l'université, a fait beaucoup de travaux de recherche dans ce sens depuis une cinquantaine d'années. Mais là, voilà, un centre vraiment dédié uniquement à tout ça, c'est vraiment une première mondiale. Donc, pour terminer, voilà, grâce à une approche fondée sur des études multidisciplinaires, le centre sur le cannabis et les cannabinoïdes favorisera un apprentissage commun en créant des outils nécessaires pour offrir des conseils et déployer des ressources dans ces domaines.
Tu veux bien faire cobaye, hein.
Tu veux bien faire cobaye, tu veux bien aller à Prague. Je pense qu'en République tchèque, ils savent que Bedrocan existe, par exemple. Déjà, ils connaissent. Enfin, pour faire quelque chose comme ça, à mon avis, ils ont déjà quand même un certain nombre de connaissances. Compiler déjà pas mal de connaissances, ils peuvent déjà travailler quand même de manière intéressante. Allez, on va aller un peu au sud de la Méditerranée, on va aller en Tunisie, on en a parlé ces dernières semaines. Un certain nombre de jeunes qui avaient été arrêtés pour soi-disant avoir consommé du cannabis ou parce qu'il y avait des feuilles à rouler dans leur voiture, enfin, ce qui est quand même assez incroyable. Et ils avaient été arrêtés, il y en avait deux, là maintenant on nous parle de trois étudiants qui étaient trois artistes qui avaient aussi été arrêtés pas très longtemps. Et là dans capitalist.com, également repris par Huffington Post dernièrement, un article donc qui nous parle de ces artistes condamnés en novembre dernier à un an de prison ferme pour la consommation de cannabis, pardon, et qui ont été relaxés. Donc c'était en novembre, ils ont pris un an. L'avocat de l'un des protagonistes a dit c'est normal qu'il soit libéré parce que en fait dans le dossier il n'y a rien et le dossier est vide. Voilà. Ils avaient aussi pris 1000 dinars d'amende chacun. Alors beaucoup d'activistes étaient révoltés contre cette condamnation parce que c'est des personnalités en fait ces trois artistes en Tunisie. Il y en a un qui est diplômé des Beaux-Arts et qui est un brillant photographe dont on expose les clichés notamment à New York et à Beyrouth. L'autre, son ami, a reçu le deuxième prix du Salon international du dessin contemporain à Paris en 2015. Enfin, le troisième est un réalisateur, un scénariste, un producteur de cinéma à la tête d'une boîte de production. Il a déjà produit plus de 20 films et documentaires. Bon, voilà, donc beaucoup de gens s'étaient indignés suite à leur arrestation. Alors c'est pas forcément ça le plus intéressant dans l'article. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on nous parle encore une fois, je sais pas si vous vous rappelez, on avait précédemment évoqué le cas, il y a une fameuse loi en Tunisie, la loi 52, comme nous en France on aurait un peu la loi de 70. Là-bas c'est la loi 52, c'est une loi d'urgence nationale, comme d'ailleurs en France la loi sur les drogues est une loi qui est calquée sur la loi antiterroriste. Mais il y a un petit rappel dans cet article, on nous dit quand même qu'il était rappelé que la loi 52-1992, promulguée sous le régime de Ben Ali, visait à combattre des dealers concurrents de Mansef Ben Ali, frère de l'ancien président. Elle permettait également au régime d'exercer la répression et d'intimider ses opposants. Comme c'est beau finalement. Des fois, on arrive à savoir le vrai fond des choses, pas chez nous, mais en allant juste chez le voisin. Hein,
Je ne pensais pas que c'était toléré là-bas. Quoi.
Ah mais c'est pas toléré.
Non, attention, c'est pas toléré.
Justement, la loi de 52.
Plus sévère. Quoi.
Mais c'est sévère. Au Maghreb, que ce soit en Tunisie, en Algérie, au Maroc, il y a des milliers de gens qui sont en prison pour des histoires de cannabis, avérées ou pas, d'ailleurs. Comme effectivement, c'est des lois d'exception et qui permettent d'exercer des pressions sur les opposants ou des gens qu'on n'aime pas bien. Là, la semaine dernière, on parlait de deux jeunes dans une voiture et ils avaient été interpellés parce qu'ils avaient trouvé des feuilles à rouler dans la voiture. Des feuilles à rouler. Bon, c'est quand même en vente dans les bureaux de tabac, les feuilles à rouler. Mais rien que ça, dans l'article dont on parlait la semaine dernière, ça pouvait suffire à vous voir dans un poste de police ou devant un tribunal. Voilà. Donc, on attend l'article qui nous reparlera de ces deux jeunes qui ont été arrêtés la semaine dernière, d'ailleurs. Voilà. Allez, on retourne se dégourdir un petit peu les oreilles avec un peu de musique et on revient tout de suite après. Marijuana, I love it, my brother. Marijuana in my soul. Marijuana in my heart. Oh. Linval Thompson and Friends. Voilà. On me souffle, hein, on me souffle. Hein. Je reconnais que. voilà, c'était ça la musique et c'était bien. Alors, donc oui, voilà, on va retourner de l'autre côté de l'Atlantique. On va aller faire un tour au Mexique avec un petit article, une fois n'est pas coutume, un article de La Croix. La Croix qui rarement commente ou publie des articles concernant les drogues ou le cannabis. Mais là, comme c'est un cardinal mexicain qui s'exprime sur le sujet du cannabis thérapeutique, il y a un article dans La Croix. Donc voilà, c'est un cardinal, voilà, donc qui s'ouvre, qui s'exprime sur le sujet du cannabis et notamment du cannabis thérapeutique et tout ça un peu avant en fait le début d'un débat national sur le cannabis et notamment le cannabis thérapeutique au Mexique, un débat national donc qui il est probable que le Mexique change également sa loi sur le cannabis. Pas que thérapeutique d'ailleurs. Donc qu'est-ce qu'il dit ce cardinal ? Il dit nous n'avons aucun problème concernant l'usage de la marijuana à des fins médicales. Voilà.
Arrête.
Non mais c'est ça que franchement tu te dis. Toutes les semaines je crois que je dis la même chose à ce sujet. Mais encore une fois quand tu vois des choses comme ça tu te dis bah en France il y a un problème quoi, c'est pas possible. Un voilà. Cardinal mexicain. Quand tu vois l'autre Pécresse, là, ce qu'elle nous promet dans les lycées de la région Île-de-France. Bref. Donc, ce qu'il dit aussi, ce cardinal, il dit que depuis l'enfance, il a l'expérience de ce type d'usage. Voilà. Il dit, quand à la maison, quelqu'un était fatigué, il se frottait avec de l'alcool dans lequel avait macéré de la marijuana. Si cet usage est étendu, la proposition est la bienvenue. Rappelant, encore une fois, c'est du bon sens. Hein. Il a dit ça, puis il dit aussi quand même que l'Église est quand même opposée à l'usage des drogues. Voilà. La consommation de marijuana et d'autres drogues à des fins autres que la santé crée des toxicomanes. Et les toxicomanies entraînent le malheur de familles qui vivent l'enfer à cause du comportement des personnes dépendantes. Voilà. C'est même pas excessif ce qu'il dit. Alors, après, les termes, bon, toxicomanie, c'est une traduction également, mais on entend tellement pire dans la bouche de nos politiques pas cardinaux français. Alors, il y en a qui disent des choses bien aussi, hein, quand même. Daniel Vaillant, entre autres, mais pas que. Jean-Luc Romero aussi, on cite peut-être pas suffisamment, mais voilà, un homme politique très courageux. Donc, c'est le cardinal Rivera Carrera. Je cite son nom quand même. Mais il dit quand même que la légalisation de l'usage thérapeutique et de la marijuana sera sans doute loin d'être suffisant pour éliminer le crime organisé. Il dit qu'il s'agit d'un phénomène plus large impliquant d'autres activités criminelles comme les enlèvements, les traites des personnes et les autres crimes qui sont encore plus rentables. Bref, certes, on nous rappelle également dans cet article de La Croix, c'est intéressant, le cas de cette petite fille mexicaine de 8 ans qui a développé une épilepsie particulièrement aiguë. On en avait parlé aussi. Hein. Alors, épilepsie aiguë, c'est quoi ? C'est, je crois, une centaine de crises par jour. Ouais. Donc, bon. Et les parents s'étaient organisés pour essayer de trouver du cannabis thérapeutique au Colorado. Et ils avaient pu en obtenir, je ne me rappelle plus exactement comme ça. Et en tout cas, cette petite fille était devenue la première consommatrice légale de cannabis médical dans le pays, au Mexique. Voilà. Et dans cet article, on nous reparle aussi de ce petit remède de grand-mère, justement de la marijuana macérée dans l'alcool, hein, traditionnellement utilisé au Mexique pour lutter contre les rhumatismes, les douleurs articulaires et musculaires. C'est une médecine héritée des ancêtres et des jeunes, et les jeunes savent que les grands-mères et leurs mères l'utilisent alors que c'est interdit. Ceci dit, la police mexicaine qui est interviewée dit que quand même, bon là, ils ont quand même jamais arrêté de gens ou de personnes âgées qui avaient mis du cannabis dans de l'alcool pour soigner ses rhumatismes. Heureusement, mais en tout cas, c'est quand même interdit. On nous explique aussi que ce cannabis peut être utilisé en séché ou en pâte, qui peut se consommer sous forme de thé pour calmer les maux de tête, se relaxer ou faciliter l'endormissement, mais aussi fumé par des patients atteints de cancer pour combattre la nausée. Voilà.
Les rhumatismes, voilà. C'est peut-être possible.
Oui, ben justement, là, c'est les rhumatismes pour l'alcool, ouais, le cannabis dans l'alcool, les personnes âgées, c'est comme ça qu'ils se soignent. Ouais. Alors après, bon, du côté des autorités sanitaires mexicaines, donc de l'institution, on tempère, on minore un peu tout ça, on dit oui, bon, le cannabis, ok, mais pour qu'il y ait des effets curatifs, la préparation doit se présenter sous forme de comprimé ou d'injection. Voilà, on reconnaît bien le médecin qui s'exprime. bon, voilà. On va rester en Amérique du Sud, on va aller en Colombie maintenant, la Colombie qui légalise le cannabis à usage thérapeutique. Un article du Parisien du 22 décembre dernier, là aussi, une super bonne nouvelle. Ah, la Colombie. Ah, la Colombie qui va légaliser le cannabis thérapeutique. Aujourd'hui, la Colombie franchit un pas important pour se positionner à l'avant-garde de la lutte contre les maladies. Nous le faisons par un décret qui vise à mettre à profit les bienfaits du cannabis pour améliorer la vie des gens. Voilà ce que nous dit Juan Manuel Santos, président de la Colombie, je précise quand même. Alors jusqu'à présent en Colombie, en fait, fabriquer du cannabis thérapeutique ou mettre en place une, enfin faire une préparation, c'était pas interdit.
Ok.
Voilà. C'est autorisé depuis une loi de 1986. Voilà. Mais faute de réglementation, jusqu'ici, il n'était pas possible de permettre la production légale à grande échelle. Voilà.
Et là, c'est parti.
Bah, en tout cas, ils vont aller un peu plus loin. Hein, en tout cas. Alors là, ce qu'on nous dit, c'est que la culture. Alors, ça sera possible uniquement pour de l'usage personnel. Alors, il parle de l'intérêt pour les personnes qui souffrent d'épilepsie, là encore. Ça sera en quantité peu importante via des circuits fermés. Voilà comment ils veulent faire ça. Avec une culture limitée à 20 pieds et la possession à 20 grammes, ce qui est déjà très intéressant. Mmh. En outre, pour un usage strictement privé, consommation en public, commercialisation étant interdite. Voilà, ça, c'est presque un peu plus une espèce de dépénalisation, une légalisation dépénalisante, je sais pas comment dire, une dépénalisation légalisante. Voilà. Donc, avec ce nouveau texte, la Colombie rejoint donc les autres pays du continent américain qui ont déjà, tel que l'Uruguay, adopté une légalisation légalisant le cannabis. Plus de 20 États des États-Unis ont aussi autorisé l'usage médical, mais au Chili aussi, les choses avancent. Et oui, au Chili, le Congrès examine actuellement la question. Alors que là, on nous reparle du Mexique qui prépare un débat national sur la dépénalisation de la marijuana. Voilà. Donc, en Amérique du Sud, ça continue d'avancer.
On sera les derniers, nous.
Ah ben oui, c'est sûr et certain, comme d'habitude, quoi. Alors, le trafic de drogue, on nous rappelle aussi dans cet article, est l'un des fléaux de la Colombie, principal producteur mondial de feuilles de coca, mais qui a également un usage médicinal prévu pour la coca. Hein. Ils sont pas fous. Alors pour la cocaïne quand même, c'est 442 tonnes de produites en 2014, soit 52% de plus que l'année précédente. Voilà un peu pour ce qui va se passer de la Colombie. Ensuite, on continue, on revient en Europe avec cet article dans 24h.ch, un sociologue suisse, Sandro Catassin, qui est auteur d'une étude sur les drogues et les addictions et qui dit qu'il faut arrêter avec une loi qui ne repose que sur l'interdiction des drogues. Voilà. Lui, ce qu'il propose, c'est remplacer l'interdiction par la régulation. Alors, comment en êtes-vous arrivé à ces conclusions, cher monsieur le sociologue ? Alors, il nous dit que nous avons travaillé avec différents chercheurs et scientifiques sur les différents rapports qui ont tenté de classifier les substances psychoactives. Voilà. Alcool, tabac, cannabis, amphétamine, cocaïne, héroïne. En fonction de leur dangerosité. Alors il nous rappelle, hein, parce que ça on le sait quand même depuis très longtemps maintenant, il nous dit certaines études se basaient sur les avis des experts, d'autres sur ceux des consommateurs. Il y a aussi des études cliniques qui ont testé la mortalité des drogues et des études épidémiologiques qui ont combiné la mortalité et la morbidité. Et nous avons découvert qu'il y a une multitude de facteurs qui influencent cette dangerosité. Beaucoup de produits sont diabolisés alors qu'ils peuvent être consommés d'une manière non problématique. D'autres produits sont jugés moins dangereux mais ont des effets sur la société beaucoup plus importants. Les classifications entre drogues légales et illégales sont donc complètement politiques et morales mais reposent sur très peu de bases scientifiques. Ah, ça fait du bien à entendre. Alors, quels sont les facteurs qui déterminent la dangerosité d'un progrès, d'un produit ? Alors, il nous rappelle qu'il y a aussi d'abord la dose, puis la qualité du produit et le type de consommation. La consommation simultanée de deux produits est forcément déconseillée. Quatre autres facteurs s'y ajoutent. D'abord, la fréquence de consommation. La consommation devient beaucoup plus dangereuse en situation de dépendance. Ensuite, le début de la consommation. Si on commence très jeune, les effets sont nettement plus importants car les organes ne sont pas encore complètement développés. Il y a également le contexte de consommation. Si vous avez bu seul ou en famille, le contexte peut avoir un effet de contrôle sur la personne, seul ou en groupe. Une consommation solidaire devient vite plus problématique. Enfin, il y a des prédispositions personnelles, génétiques ou liées à des maladies. Voilà. Alors, quelle conclusion politique en tire donc la Commission ? Nous disons que le cadre de régulation des drogues basé sur l'interdiction ne suffit plus à faire face aux défis à venir. Aujourd'hui, on traite les substances une par une. Cela ne correspond pas à la réalité de la consommation. Nous appelons à un modèle d'action basé sur le contrôle et la régulation des produits qui permettent de les rendre accessibles sous le contrôle de l'État. Pour nous, c'est le moment de tester de nouveaux modèles basés sur la prévention, l'information et l'apprentissage de la consommation contrôlée, des modèles qui permettent d'avoir plus de succès et de diminuer les problèmes. La majorité des villes suisses sont très intéressées à mener des expérimentations dans le domaine du cannabis, et c'est le moment d'autoriser ces expérimentations. Voilà. Alors, ça ne va pas être évident, il va quand même avoir une forte résistance. Alors, il dit oui, c'est sûr, mais ce rapport est issu quand même de 3 années de réflexion. C'est un document qui servira dans le débat politique pour discuter des difficultés à gérer les questions de substances psychoactives. Chaque jour apparaissent de nouvelles substances et la Suisse les classe dans la liste des produits interdits. Ce n'est peut-être pas la bonne voie. Il faut calmer la guerre morale et dire « Ok, on veut travailler avec des logiques de régulation. Nous ne sommes ni pour ni contre les drogues, mais pour une réglementation qui en diminue les dégâts. Je peux m'imaginer vivre dans une société où les gens consomment des drogues. La question est comment arriver à ce point où les gens en consomment en étant conscients de ce qu'ils font à leur corps. » Voilà, donc un article assez intéressant, assez court, mais qui rappelle quand même des choses un peu... des choses évidentes qu'on sait quand même depuis longtemps, mais qu'on lit pas forcément très souvent. Voilà, il nous reste 5 minutes, on va terminer, on va essayer de terminer dans les temps, avec cet article, donc comme je disais en début d'émission, un article dans Libération de Fabrice Olivet, qui est le directeur d'Assud, et Olivia X. Gracia, première adjointe ou maire du 2e arrondissement de Paris, qui ont publié une tribune dans Libération, substitution aux opiacés, 20 ans d'hypocrisie. Je vais essayer de le lire assez rapidement, en tout cas de le traverser. Malgré la généralisation des traitements de substitution, la plupart des professionnels de santé restent réticents à remplir leurs obligations de prescription et de délivrance, refoulant les usagers de drogue dans une semi-clandestinité. Cette situation souligne le manque de cohérence d'une politique de réduction des risques. 20 ans d'hypocrisie. Après un long parcours institutionnel, la nouvelle loi de santé publique vient enfin d'être votée, légalisant pour la première fois dans notre pays les salles de consommation à moindre risque. Cette disposition, qui s'inscrit clairement dans l'approfondissement de la politique de réduction des risques liés à l'usage de drogue, va concerner tout au plus quelques centaines d'usagers dans l'Hexagone. Or, derrière le théâtre d'ombre des salles de shoot, entre guillemets, propice aux postures vertueuses, une pièce beaucoup moins connue se joue en coulisses. Il s'agit du dossier sulfureux des traitements de substitution aux opiacés, une tragicomédie mise en scène depuis près de 20 ans, dans une indifférence pour le moins suspecte. Le saviez-vous, premier acte, saviez-vous qu'en France, un toxico en manque ou simplement désireux de rompre avec le marché illégal peut se rendre chez n'importe quel médecin généraliste et ressortir quelques minutes plus tard avec 28 jours de traitement à la buprénorphine haut dosage, un opiacé de synthèse plus connu sous son appellation commerciale de Subutex. Saviez-vous que ces traitements dits de substitution aux opiacés sont en train de fêter leurs 20 ans d'existence légale ? Saviez-vous que plus de 160 000 patients bénéficient de ces médicaments d'un genre particulier et que leur nombre augmente régulièrement de 4% par an ? Deuxième acte, saviez-vous que malgré l'ancienneté de la réglementation, la plupart des pharmaciens refusent de délivrer ces traitements sous divers prétextes, assortissant leur refus de commentaires variés ? On ne fait pas ça ici, revenez demain ou nous avons besoin de l'original de votre récépissé de carte vitale. Troisième acte, saviez-vous que nos tribunaux voient défiler chaque année de nombreuses affaires judiciaires concernant des médecins ou des pharmaciens qui prescrivent et délivrent des médicaments de substitution aux opiacés? Ces professionnels risquent leur carrière, voire de la prison ferme, pour faire ce que la grande majorité de leurs confrères ne fait pas, c'est-à-dire prendre en charge des usagers de drogue exclus de la plupart des autres dispositifs. Le secret de famille, quel sens politique général faut-il donner à ces trois actes? Tout d'abord, reconnaître qu'il existe un décalage énorme entre les succès de la substitution et la méfiance qu'elle suscite toujours chez les professionnels de santé et dans la société en général. Il y a 20 ans, la prescription de méthadone s'est heurtée à l'opposition unanime des experts de l'époque, sous le prétexte qu'il s'agit après tout de donner de la drogue aux drogués. Cette opinion demeure dans les esprits d'une part non négligeable des acteurs de santé. En plus de retarder la mise en place des traitements, cette opposition a persuadé durablement nos gouvernants du risque politique de dérapage lié à toute communication de grande ampleur sur la substitution aux opiacés. Nous avons donc mis en place le système d'accès au traitement de substitution aux opiacés le plus libéral du monde, dans une quasi-absence de débat. Ce dispositif a sorti la population des usagers des drogues des statistiques du sida, puis a contribué à résoudre le problème de la petite criminalité liée à la consommation d'héroïne, véritable plaie de l'époque, avant de réduire considérablement le nombre d'overdoses. Or, tout se passe comme si la France vivait cet indéniable succès comme un honteux secret de famille. Aucune campagne nationale n'a jamais été mise en place par l'État sur les traitements de substitution aux opiacés. Pire, pendant que les laboratoires Bouchard et Cordati commémorent 20 années de prescription de méthadone le 7 décembre devant un public clairsemé, le tribunal de Sarreguemines requérait un an de prison ferme contre le docteur Furlan, un médecin accusé de prescrire du Subutex avec trop de libéralité. L'histoire du docteur Furlan est hélas une histoire banale, semblable à des centaines d'autres qui émaillent depuis 20 ans la chronique fait divers de la presse régionale. Le spectre du dealer en blouse blanche, la formule, utilisée depuis toujours pour disqualifier la substitution, continue de rôder dans les têtes. À force d'être rejeté de la plupart des pharmacies, de ne pas trouver de médecins disposés à prescrire des médicaments de substitution aux opiacés, la plupart des usagers de drogue en traitement se rabattent sur un petit nombre de professionnels isolés, parfois militants, parfois escrocs, toujours dépassés par le nombre sans cesse grandissant de leurs files actives. Dépassement des délais, renouvellements automatiques, posologie injustifiable, la multiplication des dérapages réglementaires est le prolongement inévitable d'une stigmatisation qui concerne autant les usagers que les rares professionnels qui les suivent en médecine libérale. C'est le syndrome du maillon faible, un biais créé de toutes pièces par la pénurie de l'offre et cautionné par l'indifférence générale des autorités sanitaires et ordinales à l'égard de ce scandale de santé publique. Livrés à eux-mêmes, les usagers de drogue et les associations qui les représentent ne peuvent pas grand-chose. En 2011 déjà, Safe et Assud, deux acteurs historiques de la politique de réduction des risques, avaient dénoncé cette situation au ministère de la Santé en présentant une enquête sur la non-délivrance des traitements de substitution dans les pharmacies de la capitale, sans grand succès. Aujourd'hui, le défi est relevé par la mairie du 2e arrondissement de Paris. Alertée par les usagers et les professionnels de son secteur, elle a décidé d'interpeller l'Ordre des pharmaciens et l'Agence régionale de santé dans un courrier officiel pour faire cesser le scandale de la non-délivrance des traitements de substitution aux opiacés. Le document précise « Les médecins sont souvent obligés de perdre un temps précieux à joindre de nombreuses pharmacies » et conclut en demandant aux autorités ordinales d'intervenir auprès des pharmaciens pour que cessent ces manquements répétés à leurs obligations déontologiques. Prochainement, ce sera au tour de la buprénorphine au dosage, commercialisée le 26 février 1996, de fêter ses 20 ans d'autorisation de mise sur le marché du médicament. Cet anniversaire sera peut-être l'occasion de lever le rideau sur les 20 années d'hypocrisie du théâtre d'ombre de la prescription d'opiacés en France. Voilà, voilà. Eh bien, avant de se quitter, oui, parce qu'il est déjà 22h02 et que Chasseur de Son est en place et qu'il rôde dans les parages. Donc, voilà, c'est la fin de cette émission de Cannabis Circus aujourd'hui, lundi 28 décembre 2015. Bientôt la prochaine année, bientôt 2016, j'en profite pour vous informer, vous rappeler que si vous souhaitez adhérer, réadhérer, devenir adhérent pour la première fois du Cirque Lyon, eh bien c'est le moment de le faire savoir en nous écrivant Cirque Lyon BP 93 043 69 605 Villeurbanne CEDEX ou en passant par notre site internet www.cirque-lyon.fr. C'est le moment d'adhérer ou de redevenir adhérent du Cirque Lyon. Le Cirque Lyon qui est toujours présent également sur Facebook. La Fédération des Cirques est également présente sur Facebook. Vous pouvez nous envoyer également un petit mail à l'adresse suivante cirque-lyon@no-log.org si vous voulez nous contacter ou nous poser différentes questions. Si vous voulez méditer avec nous, ça serait bien parce qu'on a besoin de monde, de conscience, de bras, de gens motivés qui veulent, comme aux États-Unis, comme en Uruguay, comme en Colombie, comme un peu partout dans le monde, sauf en France, qui veulent se battre pour faire changer la loi sur le cannabis et sur les drogues pour qu'on en finisse avec cette prohibition raciste et criminalisant et stigmatisant des centaines de milliers de personnes partout dans le monde. Voilà, je vous souhaite une future très bonne année 2016, puisqu'elle arrive dans pas très longtemps. Maintenant, c'est Chasseurs de Son jusqu'à point d'heure. Allez, bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous et merci. Et à l'année prochaine pour un nouveau Cannabis Circus. Au revoir.